Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, dans Un jour dans le monde, ce terrible air de déjà-vu, toujours aussi terrifiant, cette affaire d'éternelle Amérique qui n'en finit pas de nous laisser sans voix. La plus grosse tuerie de masse a eu lieu il y a quelques heures aux États-Unis, interrogeant une fois de plus notre regard sur ce pays décidément déconcertant. Et on y viendra dans un instant avec Sylvain Sipel. Déconcertant aussi, évidemment, moins tragique, ce référendum catalan qui n'a pas eu lieu, disent les autorités espagnoles. Ce soir, l'ONU s'en mêle. Nous sommes pour démêler la situation avec l'ambassadeur espagnol en France. On a besoin de souffle. 18h45, vous verrez que le romancier Ken Follett, le gallois Ken Follett, ne fait pas mystère de son opinion sur le Brexit. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger. On commence avec l'Espagne qui pousse sa corne dans Un jour dans le monde.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia.
Els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent.
Voilà, est-ce que vous avez entendu l'un après l'autre? C'était Mariano Rajoy d'abord et puis Carles Puigdemont ensuite, donc le Premier ministre espagnol et puis le président de la Generalitat de Catalogne, et leur vision diamétralement opposée de ce qui s'est passé dimanche, l'un disant que ça y est, l'indépendance peut être là, l'autre disant évidemment le contraire. Bonsoir Fernando Cardereira.
Bonsoir Madame Santès.
Bonsoir, vous êtes ambassadeur d'Espagne en France et merci d'être avec nous. On l'a entendu à l'instant, réentendu Mariano Rajoy, il n'y a pas eu de référendum, mais c'est toujours ce que vous dites, la version officielle, il n'y a pas eu de référendum en Catalogne dimanche.
Oui, c'est comme ça. Et permettez-moi d'abord d'exprimer mes condoléances envers les familles des victimes de l'attaque terroriste à Marseille. On a malheureusement trop bien connu le terrorisme en Espagne. Je voudrais exprimer mes condoléances.
Et merci de le dire.
Quant au référendum, ma sensation est d'énorme tristesse. Et je voudrais signaler deux faits. D'abord, la société catalane est une société plurielle. On ne peut pas mettre en égalité catalans et indépendantistes. Les indépendantistes sont une minorité en Catalogne. Et le problème qu'on a, c'est qu'il y a des dirigeants en Catalogne qui ont agi comme des vrais illuminés, avec un sectarisme qui est tout à fait innombrable, incroyable, qui ont créé un climat malsain de division et de crispation dans la société catalane. Mais c'est une société qui est toujours plurielle.
Et on a bien compris que les choses n'étaient jamais évidemment tout blanc ou tout noir. On est évidemment dans des zones de gris. Mais quand même, on a bien compris que le droit espagnol disait que ce référendum n'était pas possible. Mais Monsieur Cardereira, avec le recul maintenant, il s'est passé du temps depuis hier matin, hier après-midi. Est-ce que les balles en caoutchouc, est-ce que les matraques, est-ce que tout cela était vraiment nécessaire?
Bon, il faut avoir à l'esprit la situation. La situation est d'une gravité extrême puisqu'il s'agit d'un coup d'État au ralenti. Il faut nommer les choses comme elles sont. Le gouvernement de la Catalogne essaie de donner un coup d'État, un coup mortel au pacte démocratique
Un coup d'État au ralenti, même si vous employez le mot de coup d'État, il n'y a pas d'armes. Donc il n'y a pas de matraque non plus.
Bon, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de matraque, mais c'est quand même un coup d'État. Et c'est un coup d'État qui ne respecte pas ni la loi espagnole, ni la loi catalane, ni les décisions des tribunaux espagnols et catalans. Et le problème, c'est qu'on a un gouvernement en Catalogne qui agit contre la loi espagnole, contre la loi catalane et contre les décisions des juges.
Mais pardon de reposer la question, est-ce qu'il fallait vraiment utiliser de violence et de ces fameuses balles en caoutchouc? Parce que les images, honnêtement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la guerre de l'image, vous l'avez perdue? Quand on voit une vieille dame en sang, on a perdu la guerre de l'image. Oui. Est-ce que là, vous vous dites, il fallait peut-être pas aller si loin?
Bon, écoutez, la vérité n'est pas simple. Et parfois, on a trafiqué des images. Et je peux vous donner des exemples. On a employé des images des gens qui ont été blessés par la police régionale de la Catalogne en 2012. Et on les a fait passer pour des images des personnes qui ont été blessées hier.
Cette vieille dame qu'on a beaucoup vue sur les réseaux sociaux, vous pensez
la
que c'était
la vieille dame qu'on a vue sur les réseaux sociaux est tombée d'un escalier.
Ah, et ça vous le savez avec certitude?
On le sait avec certitude. Il y a beaucoup de photos qui circulent dans les réseaux sociaux. Je ne veux pas dire que toutes les photos soient fausses.
Et on vérifiera ce que vous dites, évidemment.
Il y en a. Et si on parle de la dame qui est ensanglantée, c'est une image d'une dame qui est tombée dans l'escalier. Mais je continue avec mon idée.
Oui.
Ce qui arrive, c'est d'une gravité extrême. Et vous dites qu'il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes, mais il y a une situation dans laquelle on essaye de donner un coup d'État au ralenti. de finir avec le pacte démocratique qui a garanti la coexistence la plus longue de toute l'histoire de l'Espagne contemporaine. C'est encore plus grave que le coup d'État qui a été essayé en 1981. Peut-être vous vous rappelez, il y a eu la guerre civile qui est entrée et qui a essayé de séquestrer le Parlement espagnol. Ceci est encore plus grave.
Il y avait armes, Monsieur Cardereira, à ce moment-là. Il n'y en avait pas hier, il n'y en avait pas hier dimanche.
C'est pire puisqu'il y a un gouvernement légitime qui essaye de ne pas respecter la loi, d'aller contre les décisions des juges et d'imposer à la majorité sa volonté. Ils essayent d'imposer à une société qui est très plurielle une décision qui est l'indépendance qui n'a pas d'appui.
Mais vous n'avez pas le sentiment d'avoir accentué la cassure, d'avoir peut-être même fait basculer un certain nombre de gens qui pouvaient être des indécis ou peut-être même qui étaient contre l'indépendance. Est-ce que vous ne croyez pas que cette cassure-là est devenue presque irrémédiable depuis hier ?
Je ne crois pas. Toutes les cassures doivent être remédiables. Et on doit toujours parler, on doit essayer de trouver des solutions au problème. Le problème, c'est qu'il y a eu une incitation irresponsable de la part du gouvernement de la Catalogne qui a créé un climat tout à fait malsain. Il y a eu ensuite une manque de loyauté des Mossos d'Esquadra, de la police régionale de la Catalogne, qui n'a pas voulu respecter les ordres qui avaient été donnés par des juges
parce
dans lesquels ils leur demandaient.
Parce que la police catalane n'a pas voulu taper sur des Catalans, c'était compliqué pour eux.
Non, la police catalane n'a pas voulu. L'ordre, ce n'était pas de taper sur les Catalans.
D'empêcher la tenue
l'ordre
du référendum.
Oui, c'est
autant
ça.
Pour moi.
Ils n'ont même pas essayé d'empêcher la tenue du référendum. Alors, l'ordre n'était pas du tout de taper sur les Catalans. Il y a eu des réactions qui ont été parfois violentes, et ça explique le chiffre de 33 blessés parmi les forces de sécurité. Et les forces de sécurité ont agi en tant que police judiciaire. Ils ont utilisé une force légitime et nécessaire qui n'aurait été pas nécessaire si les Catalans, sur le gouvernement de la Catalogne, auraient respecté la loi.
Monsieur Cardereira, il va bien falloir les recoller les morceaux. Qui va faire le premier pas ? Est-ce que le gouvernement espagnol est prêt à faire le premier pas ? Est-ce qu'il peut y avoir un dialogue désormais entre vous et les dirigeants de Catalogne ou pas ?
Bon, le président du gouvernement a essayé de dialoguer avec le président de la région catalane. Il a proposé à M. Puigdemont, le président de la Catalogne, de présenter ses plans dans le Parlement espagnol. Il a refusé. M. Puigdemont avait présenté 56 points qu'il voulait négocier avec le gouvernement central. M. Rajoy s'est dit prêt à négocier sur 55. J'imagine que vous devinez que le 56e,
c'était
le référendum. Alors, de la part de M. Puigdemont, c'était référendum oui ou oui.
Ça veut dire qu'on ne peut pas discuter avec lui. Il faut qu'il s'en aille pour qu'on puisse commencer à discuter entre le gouvernement central et la Catalogne, c'est ça que vous dites ?
Il faut qu'il renonce à sa position actuelle qui demande référendum oui ou oui. Il a déjà organisé cette sorte de pantomime qu'on a eue, de mascarade. Et maintenant, il faut qu'il ne déclare pas l'indépendance unilatérale de la Catalogne, qui est une des possibilités.
Et s'il le fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas envoyé les chars à Barcelone quand même. Donc s'il le fait, qu'est-ce qui se passe ?
S'il le fait, c'est la culmination d'un coup d'État. Alors il faudrait prendre les mesures qui exigent un coup d'État.
C'est-à-dire des militaires ?
Non, je dis appliquer la loi avec tout le respect de la loi. Je n'ai pas parlé des militaires.
C'est-à-dire
que ferait la France en cas de coup d'État d'une région qui voudrait se déclarer indépendante ? Que ferait la France en cas que le président de la Corse déclarait la Corse indépendante de la France ? J'imagine que le président de la République réagirait en appliquant la loi.
J'ai l'impression qu'on a
toujours
réussi à discuter avant d'en arriver là. Comment se fait-il que vous n'ayez jamais réussi à discuter pour en arriver là ?
Parce que M. Puigdemont n'a pas voulu. Vous dites, qui va faire le premier pas ? M. Rajoy a annoncé hier qu'il était prêt à discuter de politique. Il est maintenant en train d'avoir des réunions avec des leaders nationaux, Ciudadanos et PSOE, qui partagent d'autre part la détermination du gouvernement. Et il est prêt à parler avec les autorités catalanes, pourvu que celles-ci renoncent à leur plan d'indépendance.
Fernando Cardereira, il y a un article 155 dans votre constitution qui dit, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, que si une région viole ses obligations constitutionnelles, je vais résumer un petit peu, le gouvernement peut l'obliger à les respecter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut reprendre provisoirement ou pas, j'en sais rien, son autonomie à une région. Et est-ce qu'on peut s'acheminer par là ?
C'est une des possibilités si M. Puigdemont insiste dans sa manque de loyauté, dans cette sorte de coup d'État. une possibilité offerte par la Constitution espagnole qui consisterait à prendre des mesures pour enlever une partie des compétences, peut-être probablement d'une façon temporaire, et pour essayer de redresser la situation, c'est-à-dire pour obliger à cette communauté qui s'est déclarée en rébellion de remplir ses obligations d'accord avec la Constitution et la loi espagnole et catalane, parce qu'il bafoue aussi la loi catalane. Il y a une Constitution en Catalogne qui a été votée et approuvée. D'autre part, je voudrais rappeler que la Constitution espagnole a été votée en Catalogne avec plus de 90% des voix, avec une participation de 80% des votants.
Mais on a l'impression, pardon, mais l'impression que ça donne, nous, de notre côté des Pyrénées, c'est que tout le monde a oublié le coup d'après. En fait, et c'est dit, de toute façon, on ira au bras de fer, donc le coup d'après, on verra. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant, concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Là, demain, c'est grève générale, qu'est-ce qui se passe après?
Bon, je crains que M. Puigdemont prépare sa déclaration unilatérale d'indépendance. C'est la raison pour laquelle demain, il y a une grève générale qui n'est pas suivie par les syndicats majoritaires en Espagne, Comisiones Obreras, UGT et le syndicat des fonctionnaires. Ils ont refusé de participer. Et c'est une façon de faire pression et de préparer le terrain pour une possible déclaration unilatérale d'indépendance.
Lorsque ces mèches sont allumées, est-ce que vous ne craignez pas qu'elles deviennent contagieuses? Vous avez aussi un Pays Basque en Espagne. Vous êtes fait de multiples régions. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir cet effet contagion si on n'arrive pas à se parler? Du tout.
Le fait contagieux existe, mais pas seulement en Espagne, il existe aussi en France. Et on doit rappeler que le Parlement régional de la Catalogne a demandé le droit d'autodétermination pour la Catalogne Nord, c'est-à-dire pour le Pyrénées Oriental. Ça existe, il y a des régions partout.
Ce ne sera pas tout de suite, je pense.
Bon, ce ne sera pas tout de suite, mais les Corses demandent déjà, commencent déjà à parler. Il y a des gens qui commencent à parler dans plusieurs régions. Je vois la possibilité de contagion encore plus dans d'autres régions européennes que dans le cas de l'Espagne.
Et justement, l'Union européenne est assez silencieuse. Est-ce que vous voudriez qu'elle défende le pouvoir central plus fermement? Je sais qu'on débattra demain au Parlement européen. Est-ce que l'Europe devrait dire plus et devrait soutenir Mariano Rajoy ou pas?
L'Europe s'est déjà prononcée depuis des années, depuis des jours, puisqu'on m'a dit, écoutez...
Oui, mais là, depuis dimanche, on n'a pas entendu grand-chose, honnêtement. On n'a pas entendu M. Juncker, on n'a pas entendu tout ce genre.
Je vais vous traduire la déclaration qui a été approuvée aujourd'hui. Le vote de la Catalogne de hier n'est pas légal. Pour la Commission européenne, c'est une affaire intérieure de l'Espagne qui doit être résolue en ligne avec la Constitution de l'Espagne. Elle rappelle qu'un territoire qui quitte un État membre se trouve immédiatement en dehors de l'Union européenne.
Mais vous trouvez qu'on en a dit assez, que l'Europe en a dit assez, il n'y a pas besoin d'en dire plus, vous n'attendez pas plus, vous avez entendu M. Puigdemont parler d'une médiation internationale, voire d'une médiation européenne, c'est sur le tapis ou pas du tout?
M. Puigdemont essaye de faire un conflit international d'une chose qui est un conflit interne et qui est une tentative de coup d'État. Et il faut insister là-dessus. Le deux éléments auxquels j'insiste, d'abord la pluralité de la société catalane et ensuite la gravité de la situation puisque nous assistons en coup d'État au ralenti. Le président de la République a déclaré son engagement avec l'unité constitutionnelle de l'Espagne, sa pleine confiance, et je lis, sur la capacité de la démocratie espagnole de mener un dialogue politique apaisé dans le cadre de la légalité constitutionnelle.
Fernando Cardeira, je voudrais juste, et ce sera la dernière question, qu'on soit bien clair et qu'on a bien compris, pour l'instant, tant que c'est M. Puigdemont qui est votre interlocuteur, il ne peut pas y avoir de dialogue.
Il peut toujours avoir de dialogue si M. Puigdemont abandonne ses idées de déclarer unilatéralement l'indépendance, parce que ça équivaut à la finalisation du coup d'État.
Donc tant qu'il n'a pas dit ça, je renonce à l'indépendance, on ne peut pas se parler, ni eux ni vous, hein, chacun dos à dos, ni eux ni vous.
Écoutez, M. Puigdemont a fait un référendum qui a été déclaré illégal par les tribunaux. Et je dois insister ici dans une histoire que je n'ai pas rappelée. Ce sont les tribunaux de justice qui prennent ce genre de décisions. Ce sont des tribunaux de justice espagnols et catalans, le tribunal constitutionnel, le tribunal supérieur de justice de la Catalogne, même un organisme consultatif catalan qui s'appelle Consell de Garanties Estatutarias, qui ont déclaré l'illégalité du référendum. Monsieur Puigdemont a bafoué son propre statut d'autonomie, qu'il a aboli dans une séance de 3 heures, qui rappelait beaucoup plus à une assemblée de Monsieur Maduro qu'à un parlement régional européen.
Donc pour l'instant, en tout cas, on en est là. Grève générale demain et on attend ce qui peut se passer. Vous l'avez évoqué, peut-être l'article 155 de la Constitution. En tout cas, c'est pas fini. On suit ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Fernando Cardereira.
Et on est toujours ouvert au dialogue, même avec M. Puigdemont.
Et merci, Fernando Cardereira, ambassadeur donc d'Espagne en France. Merci de votre présence dans Un jour dans le monde.
Merci à vous.
France Inter. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Et justement, Monsieur Cardereira, si vous voulez rester, d'ailleurs, vous avez 5 minutes devant vous. Je vous invite à écouter ce qu'on dit de l'Espagne et de la Catalogne dans la presse européenne. On a beaucoup entendu, évidemment, la presse espagnole toute cette journée sur France Inter. Je voudrais qu'on aille voir les autres et qu'on commence par Bruxelles, parce que ce silence un peu gêné quand même de Bruxelles est, selon la formule consacrée, un peu assourdissant. Bonsoir à vous, Bruxelles, et bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir Fabienne, bonsoir
à tous. Et qu'est-ce qu'on lit chez vous dans la presse, alors, Pierre ?
Mais à la une de tous les journaux belges ce matin, d'immenses photos de la répression policière dans les rues de Barcelone et dans les autres villes catalanes. Une une dominée par un drapeau indépendantiste catalan pour le Mochen qui proclame Catalogne 1, Espagne 0, estimant que la violence contre les partisans du oui à l'indépendance ne peut compter que sur très peu de sympathie en Belgique ou en Europe. La matraque détruit le peu d'espoir de dialogue, selon le Standard, l'autre quotidien flamand de référence. C'est la pire crise de l'Espagne depuis Franco, selon le quotidien populaire La Dernière Heure, suivi en cela par Le Soir, pour qui le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a fait échouer à son pays le test démocratique le plus critique depuis 1981. Selon la Gazette van Antwerpen, c'est la honte de l'Espagne, et le quotidien anversois remonte encore plus loin, affirmant qu'on se croirait face à une dictature sud-américaine des années 70.
Et justement, tiens, au-delà de la situation en Catalogne, on en parlait à l'instant avec l'ambassadeur, il y a les autres aussi, et chez vous, il y a une problématique belgo-belge, si je puis dire. C'est la tentation séparatiste des Flandres, de la Flandre, pardon.
Oui, les journaux belges sont évidemment particulièrement attentifs aux répercussions que la situation en Catalogne pourrait avoir en Flandre belge, où l'éditorialiste du Standard reflète le sentiment général des séparatistes flamands quand il écrit que le gouvernement espagnol devrait avoir de la compréhension pour les aspirations catalanes à l'autonomie, voire à l'indépendance. Le Soir estime pour sa part que Madrid a tout perdu, que le dialogue en Belgique avec les séparatistes flamands pourrait finalement représenter une forme de modèle. Et le Standard affirme, lui, que malgré son soutien sans faille aux séparatistes catalans, le parti séparatiste flamand NVA n'aurait rien à gagner à ouvrir en Belgique une crise au sein du gouvernement fédéral en cherchant à lui faire prendre parti. Le Morgen, lui, estime désormais que l'Union européenne doit faire œuvre de médiation, seule option, selon le quotidien flamand, pour sortir de l'impasse.
Et merci à vous, Pierre Benazet, qui avait lu donc la presse belge. Bonsoir Londres, bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Là aussi, ça nous intéresse ce que vous lisez dans la presse, parce que vous avez l'Écosse, et qui regarde ça évidemment de très très près, et on va y venir. Antoine, c'est surtout, pour l'instant en tout cas, la réaction de l'Europe qui intéresse les Britanniques.
Avec cette nouvelle crise européenne, oui, c'est le titre du Daily Telegraph, le quotidien de droite, retient surtout l'absence de réaction de Bruxelles face aux centaines de personnes blessées hier et publie cette interview d'Andrew Rossindel, député conservateur, membre du Bureau des Affaires étrangères à la Chambre des communes. La violence d'hier, dit-il, montre l'Espagne et l'Europe sous un très mauvais jour. Pendant des années, les Espagnols ont utilisé la Guardia Civil pour rendre la vie aussi difficile que possible aux habitants de Gibraltar, dit-il. Et c'est cette même police qui attaque aujourd'hui les habitants de Catalogne. Le Télégraphe s'étonne de la faiblesse des critiques des chefs d'État. Dans d'autres circonstances, s'il avait fallu condamner des pays moins proches de Bruxelles, comme la Hongrie, l'Europe serait intervenue en pesant de tout son poids. Cette fois, rien, à part le Premier ministre belge Charles Michel qui appelle au dialogue, on en a parlé. Il y a sur le sujet un remarquable silence.
Et pourtant, Antoine, le gouvernement britannique reste lui aussi assez prudent sur le sujet.
Avec ce petit communiqué, oui, quelques mots de Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères. Nous voulons que la loi et la constitution espagnole soient respectées. L'Espagne est un allié proche et un bon ami. Sa force, son unité sont importants pour nous. Évidemment, les propos sont beaucoup plus tranchés à gauche. Jeremy Corbyn, cité par le Guardian, parle d'une violence choquante. Vince Cable, chez les libéraux démocrates, dénonce une réponse violente, complètement disproportionnée. Mais c'est surtout, évidemment, la voix de Nicola Sturgeon qui émerge au sein de l'opposition. Quel que soit notre point de vue, dit-elle, la première ministre écossaise condamne les scènes dont l'Europe a été témoin avec le référendum perdu en 2014. Les indépendantistes écossais ne désespèrent pas de remettre le sujet sur la table. Ça ne se fera pas dans un futur proche, expliquait avant l'été Nicola Sturgeon. Attention tout de même, prévenait il y a quelques jours l'ambassadeur espagnol au Royaume-Uni, le référendum en Catalogne ne peut pas être considéré comme autre chose qu'un coup d'État low cost, on l'a dit tout à l'heure. Il aura des conséquences sur la stabilité européenne et le Royaume-Uni, disait-il, pourrait être le premier pays à en souffrir.
Voilà le terme qu'a employé exactement l'ambassadeur espagnol à l'instant chez nous. Tiens, Antoine Gignoux à Londres, merci beaucoup. Bonsoir Nathalie Versius, c'est avec vous qu'on termine ce petit tour d'Europe. Comment regarde-t-on la Catalogne chez vous en Allemagne ?
La presse allemande renvoie ce matin dos à dos les séparatistes catalans et le gouvernement espagnol. Au lieu de miser sur le dialogue, le gouvernement catalan et Mariano Rajoy ont misé sur la confrontation. Les choses doivent changer, souligne ainsi le magazine Der Spiegel sur son site électronique. Des gens, le visage couvert de sang, blessés par des balles en caoutchouc parce qu'ils voulaient voter de façon pacifique, ce sont des images brutales qui ne conviennent pas à un pays européen et encore moins à une démocratie, insiste le magazine. Même constat du côté du quotidien de centre-gauche Süddeutsche Zeitung, le gouvernement espagnol aurait dû opter pour une stratégie de déescalade. D'après le quotidien, les Espagnols se trompent s'ils croient pouvoir casser un mouvement démocratique de masse avec des amendes et des balles en caoutchouc. Le gouvernement catalan, de son côté, n'a aucune légitimité pour pousser à la sécession puisqu'il n'a obtenu que 48% des voix aux dernières élections, poursuit le quotidien Süddeutsche Zeitung. Le rôle de l'Union européenne est également critiquée par la presse allemande. L'Union européenne doit intervenir et servir de médiation dans les conflits, insiste par exemple le magazine Der Spiegel, tandis que le quotidien de centre-droit Frankfurter Allgemeine Zeitung rappelle que la Catalogne, région fortement industrialisée, abrite plus de la moitié des 1600 entreprises allemandes qui ont investi en Espagne. Le quotidien des affaires Handelsblatt souligne la pression que le référendum de dimanche a provoquée sur les marchés financiers et il faudra du temps pour soigner les plaies.
Merci beaucoup Nathalie Versieux qui est avec nous depuis Berlin. Dans Un jour dans le monde, on reviendra à la Catalogne. Tiens, ce sera tout à l'heure à 18h55 avec Anthony Bélanger. Dans son édito, on va prendre les dernières nouvelles de Las Vegas dans un instant. Avant cela, Rocío Márquez, El primer rayo de luz.
Romero del campo, amapola en flor, que lo cante sacente aroma y color. Romeros del campo, amapolas en flor, que los cantes hacen de aroma y color. Pétalos de primavera, bailan libre, y por el campo, presintiendo las cadenas que rayan al alba temprano, ay, ay.
Rocío Márquez, El primer rayo de luz.
Le 18-20, Fabienne Sintès, sur France Inter.
À l'heure des téléphones portables, forcément des scènes comme celle-ci, vous les vivez en temps réel et c'est proprement effrayant. Ça se passe ce matin à Las Vegas, 58 morts, 515 blessés dans cette fusillade qui a eu lieu donc à Las Vegas. Et à ce jour, c'est la fusillade la plus meurtrière que les États-Unis aient connue. Bonsoir à vous Sylvain Sipel.
Oui, bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialiste des États-Unis. Vous écrivez notamment dans l'excellente America, ce trimestriel qui est né en même temps que la présidence Trump. Je voudrais qu'on essaye de creuser un peu ensemble ce qui se passe aux États-Unis. On y reviendra évidemment tout à l'heure dans le 19h en écoutant notamment ce qu'a dit Trump tout à l'heure, parce que c'était vraiment intéressant tout à l'heure. Mm-hmm. Avec cette tuerie donc qui reste probablement la plus meurtrière à ce jour, quand même un mot sur ce qu'a dit ce président qui parle de compassion, qui cite les écritures, qui parle de chagrin illuminé par l'espoir. On est presque dans un prêche dans ce qu'il dit. Il nous a très peu habitués à ce genre de choses. Il avait un prompteur devant lui et surtout rien de rien sur aucune forme de revendication qui ait pu être faite par la suite.
Oui, écoutez, un, rien sur aucune revendication et deux, rien sur les sujets qui fâchent.
Et non,
c'est-à-dire
aucun sujet qui fâche.
La question qui fâche aux États-Unis, c'est la question des ventes libres d'armes à feu. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, il y a d'autres pays où il y a des ventes, des armes libres en vente, mais là, vous pouvez acheter des armes de guerre aux États-Unis.
Et surtout dans le Nevada, d'ailleurs, qui est l'un des États, Sylvain, les plus permissifs. Hein.
Oui, mais c'était vrai dans le Colorado. Enfin, il y avait plusieurs. C'est un des États les plus permissifs, absolument, Nevada, mais vous allez au Tennessee, vous allez en Alabama, vous allez enfin, vraiment dans une grande partie des États, c'est assez simple d'acheter des armes très lourdes.
Alors quand même, pour rester un peu sur ce sujet, on a retrouvé 10 mitraillettes dans sa chambre. 10 mitraillettes, ça fait quand même énormément, c'est beaucoup. D'abord, juste pour être sûr, est-ce qu'il y a une limitation dans l'état du Nevada ?
On a retrouvé des fusils mitrailleurs, ce qui
exactement.
Est plus grave. C'est pas des mitraillettes,
ce qui est encore plus gros. C'est ce que vous disiez quand on parle des armes de guerre. 10,
absolument.
Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que ça veut dire, moi j'ai pas cette information, est-ce que vous le savez, on peut en acheter autant qu'on veut dans le Nevada, c'est ça l'idée, ou pas ?
Je sais pas si on peut en acheter autant qu'on veut, mais je suis absolument convaincu. À l'époque, quand je travaillais au Monde, il y avait eu un massacre de cet ordre et la correspondante du Monde avait été simplement entrée dans un magasin. Je crois que c'est dans le Colorado, mais je suis pas sûr. Elle était rentrée. Alors qu'il y avait marqué, il y avait des affiches à l'entrée du magasin en disant vous devez présenter tel papier, etc. On ne lui avait strictement rien demandé. Elle avait simplement demandé à acquérir l'arme la plus lourde qu'ils avaient dans le magasin et ça lui avait été vendu sans aucun problème.
Ce qui laisse...
Donc, je ne sais pas si on peut en acheter 10 dans le même magasin ou un dans 10 magasins ou une arme dans 10 magasins. Enfin, c'est pas très problématique de se procurer de telles armes.
Alors, le profil du tueur, Sylvain Sipel, on ne l'a pas encore vraiment. Il manque beaucoup de choses dans ses motivations, notamment. Il s'est tué avant l'arrivée de la police, il faut le rappeler. On n'a pas trouvé beaucoup d'infos sur lui. C'est un homme blanc de 64 ans, zéro antécédent apparemment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe ? Est-ce qu'on est dans un pédigré classique de ce genre de situation ou peut-être un peu différent, je pense à son âge notamment.
Oui, voilà. Alors ce qui est classique dans le pédigré, on peut dire les choses un peu tristement, mais ce qui est classique dans le pédigré, c'est que ceux qui commettent ce genre d'actes sont très massivement des hommes blancs. Les tueries entre gangs, par exemple, qui sont dans certaines grandes villes, on prend Chicago par exemple, c'est absolument épouvantable, et ça se passe à l'intérieur des populations noires et latinos, mais ce type de tuerie est très massivement commis d'abord par des hommes, il y a des cas de femmes commettant ces actes extrêmement rares, et deuxièmement, c'est massivement blanc. C'est souvent des jeunes, donc là ça ne marche pas, puisqu'il a 64 ans, ça ne marche pas, ce que je veux dire, c'est que
il
ne correspond pas au profil habituel, mais le fait d'être homme et blanc, mâle et blanc, ça oui.
Il y a une chose qui m'a interrogée, moi, en regardant les réseaux sociaux cet après-midi. Les gens n'épiloguaient pas, et y compris d'ailleurs après cette revendication de Daesh, qui pour l'instant n'est absolument pas une seconde accréditée par le FBI. Ce qui m'a frappé, c'est que ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, c'est est-ce qu'il est pro-Trump, est-ce qu'il est anti-Trump ? Est-ce que ça vous dit pas beaucoup de choses sur l'Amérique d'aujourd'hui, ce genre de remarques et ce genre de recherches ?
Ben, ça dit tout de l'Amérique. Ça dit tout de l'Amérique actuelle, si vous voulez. Il y a très clairement deux Amériques. Vous savez, Obama a essayé deux fois de réguler les ventes d'armes, il n'a pas essayé de les interdire, il a simplement essayé de les réguler. Et donc d'abord d'interdire effectivement les armes lourdes, les armes de guerre, et d'autre part de d'obtenir une meilleure régulation. Il se heurtait à une opposition républicaine radicale et partiellement démocrate, et au lobby de la NRA, qui est la National Rifle Association, qui est le plus gros lobby américain, c'est un lobby qui est plus grand que l'industrie financière, que je sais pas, que Boeing, que le lobby pro-israélien. Oui, c'est le plus gros, c'est le lobby le plus actif à Washington. Être actif à Washington veut dire qu'il a, faut traduire les choses. Ça veut dire qu'ils achètent les campagnes des députés. Si vous voulez, ils payent les campagnes des députés. C'est ça, être actif.
Absolument. On a vu d'ailleurs tweeter Hillary Clinton, Sylvain Sipel, qui disait le chagrin ne suffit pas. Résistons à la NRA. Et ce sera la dernière question. Ça sent le énième débat sur les armes à feu, ça, ou est-ce que tout ça sera mis sur le tapis de toute façon, comme à chaque fois ?
Moi, j'ai souvenir d'un dessin épouvantable, formidable et épouvantable à la fois, qui était paru dans un journal de Chicago. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu dans le Connecticut un type qui avait tué, je ne me souviens plus, il y avait 28 morts, dont 20 petits enfants dans une école. Et il y avait un dessin où on voyait la NRA, et le patron de la NRA, à l'époque, s'appelait La Pierre, mais je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, mais à l'époque, c'était à 4 ans, donc il s'appelait La Pierre, et on voyait des gens en train de nettoyer du sang sur le siège de la NRA, et il disait « frottez, frottez, à la fin, il n'en restera rien ». Et effectivement, il suffit de frotter, et c'est le sentiment que ça donne, si vous voulez. La puissance de la NRA est telle et que on peut frotter, la plaie fait mal, mais à la fin, il n'en reste rien. La répétitivité de ce type d'acte est telle aux États-Unis. Je sais pas, il y a un chiffre absolument épouvantable. En 2000, je l'ai marqué parce que tellement c'est sidérant, il y a eu 278 tueries collectives aux États-Unis en 2014, 333 en 2015, 383 en 2016. Ça veut dire que plus d'une fois par jour, il y a un acte de cet ordre. Alors, ils sont en général, c'est 1 à 3 morts, ou pas de mort du tout, etc.
Et celle-ci...
Mais 8 fois sur 10, mais entre 8 et 10 fois par an, il y a 5 à 10 morts, et 2 à 3 fois, il y a plus de 10 morts. C'est sidérant.
Et celle-ci, c'est sidérant, comme vous dites, est particulièrement impressionnante. On va le redire, ce chiffre, parce qu'on va le répéter souvent. 58 morts, 515 blessés. Sylvain Sipel, spécialiste des États-Unis et journaliste, notamment dans America. Merci mille fois de votre présence dans Un jour dans le monde. On y revient, évidemment, à cet incroyable épisode américain, et notamment avec les paroles de Donald Trump. Et ce sera tout à l'heure dans le 19h de Sébastien Power.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Synthèse.
This is an historic moment.
Un jour dans le monde.
Je propose qu'on respire un peu avec le Brexit saison 2, le feuilleton du lundi, le Royaume-Uni qui quitte l'Europe un peu dans le fouillis pour l'instant, justement, puisque Ken Follett, figurez-vous, Ken Follett, le Gallois, est en France pour la sortie de son livre. Il est d'Amour Youssef, on a profité pour lui poser la question du Brexit. Alors le maître des romans d'espionnage, qu'est-ce qu'il en pense de ce Brexit? Eh bien, vous allez le voir tout de suite, il n'a pas codé sa réponse.
Je suis désolé qu'on a voté Brexit. C'est une décision mauvaise. Point de vue économique, mais pour moi, plus important, point de vue spirituel, c'est mauvais. Parce que moi, je déteste cette idée que nous sommes les Brits et nous n'avons pas besoin des étrangers. Sans le commerce avec les autres pays, nous sommes pauvres, nous n'avons que des millions de moutons. Le mouton, la laine, mais c'est tout. Il faut faire le commerce, les échanges, le business avec les autres pays. Malheureusement, parce que nous avons eu un empire énorme, nous, les Brits, nous pensons que nous sommes supérieurs.
Certains de vos compatriotes ont commencé à faire des démarches pour acquérir une autre nationalité, pour rester dans l'Union européenne. Est-ce que vous pourriez faire ça?
Non, j'ai pas le droit, mais je voudrais bien. Si vous avez un grand-père ou une grand-mère irlandaise, vous pouvez prendre un passeport européen. Mais moi, tous mes grands-parents sont gallois. Le pays de Galles n'est pas indépendant, donc j'ai pas le droit d'un passeport européen, malheureusement.
Comment imaginez-vous l'avenir maintenant, Ken Follett?
Pour l'Europe, le Brexit n'est pas tout à fait mauvais, parce que maintenant, le président Macron et le chancelier Angela Merkel, ils veulent avancer, et quand les Brits sont partis, ça sera beaucoup plus facile, parce que c'est les Brits qui disent toujours « non, non, nous ne voulons pas intégrer davantage ». Maintenant, peut-être ils se disent « enfin, c'est pas mal parce que nous pouvons faire du progrès ».
Allez, Ken Follett et les Brits. Follett qui sort une colonne de feu, c'est chez Robert Laffont et c'est la suite des Piliers de la Terre. Voilà pour les accros. Et c'était Ilana Mor-Youssef pour l'interview. Alexandra Acunella.
France Inter. Un jour dans le monde.
Ce qui buzz, ce qui fait parler, ce qui intrigue dans les médias du monde. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et on commence comme chaque semaine par le fake de la semaine.
Qui nous emmène cette fois-ci à Las Vegas, pas plus tard que ce matin. Bah oui, qui nous emmène En pleine panique de la tuerie qui a fait au moins 58 morts et 515 blessés, alors que la police commence à livrer des informations sur le tueur, un dénommé Jack Sins poste sur son compte Twitter un appel à l'aide. « Mon père a disparu dans l'attaque à Vegas. S'il vous plaît, retweetez et partagez. Nous sommes désespérés. » Le tout accompagné d'une photo du papa en question. C'est cette photo qui immédiatement attire l'attention du site d'info Mashable, parce que cette photo, c'est celle de Johnny Sins, star du porno. Mashable remonte alors le fil et découvre que le plaisantin n'en est pas à son coup d'essai. En mai dernier, c'était son fils qui avait disparu à Manchester, en Grande-Bretagne. Et ben ouais, carrément, hein, dans l'attentat contre une salle de concert. Son message avait été partagé plus de 14 000 fois quand même. Interrogé quasi immédiatement ce matin par Mashable via Twitter sur ses motivations, l'intéressé s'est contenté de répondre les retweets. Bref, trop rigolo de faire le buzz. Et là, on se dit, on vit une époque bien pauvre.
Vous m'étonnez. Un écran noir pour lutter, Alexandra, contre l'obscurité des médias en Serbie.
Ça s'est passé en fin de semaine dernière. 150 médias et associations de journalistes serbes ont interrompu leur programme Écran Noir pour protester contre la fermeture brutale de l'hebdomadaire indépendant Novice Vranjske et les attaques contre le site d'investigation CRIK pour avoir publié une enquête sur le ministre de la Défense et un financement obscur dont ce dernier aura bénéficié. Bien, le rédacteur en chef de CRIK a été traité de drogué, mais plus que l'insulte. Les autorités serbes pratiquent de plus en plus en ce moment l'asphyxie financière des médias critiques, des médias qui tous dépendent fortement des subventions publiques. Le quotidien Danas, lui, a récemment perdu ses contrats publicitaires après avoir mis en une des manifestations contre le président Aleksandar Vučić. Alors que la Serbie veut entrer dans l'Europe, les organisateurs de la manifestation de journalistes ont appelé les institutions européennes à cesser de fermer les yeux.
O.J. Simpson has been released from a Nevada prison.
Vous avez entendu la libération d'O.J. Simpson en boucle, hein, Alexandra, sur notamment CNN.
Et oui, c'était hier, 9 ans derrière les barreaux et une triste mine pour The Juice devant la prison Lovelock du Nevada. La séquence montrant l'ancienne vedette du foot américain, dos courbé, casquette sur la tête, sortant presque en catimini de la prison, a fait le tour du monde en quelques heures, car même ancien taulard, O.J. fascine. Sa carrière, sa chute, sa fuite, souvenez-vous, en voiture, ouais. Son acquittement surprise du meurtre de sa femme en 95. Tout cela a fait de lui un personnage incontournable de la culture américaine. Même le dessin animé Les Simpsons s'en était emparé en 2009.
Dad, did you really write a book about killing mom?
No, I did not write a book about killing mom. I wrote a book about if I killed mom.
Oh, I get it. That's sort of like if I cleaned my room.
Les races, les classes sociales, religion, malbouffe, politiciens et bien-pensance, avec leurs donuts huileux et leur canapé familial, voilà presque 3 décennies que les Simpsons tendent un miroir à l'Amérique. La série a entamé hier soir sa 29e saison sur la Fox. Comme d'habitude, les deux pieds bien dans son époque, avec les Serfson, variation où Homer, Marge et leurs enfants se réveillent dans l'univers de Game of Thrones. Alors, qui sait, si ça se trouve, on retrouvera O.J. très bientôt dans les Serfsons.
Allez savoir, Alexandra Kuhn. Merci beaucoup. Anthony Bélanger est là. À 18h55, tout pile, lors de son édito, Anthony, tout énervé ce soir. Bien on dit partout, on l'a entendu d'ailleurs à l'instant avec l'ambassadeur tout à l'heure dans Un jour dans le monde, que Madrid a perdu la bataille des images en Catalogne. Alors question, pourquoi une telle erreur?
C'est difficile à comprendre, hein. Vous l'avez tous compris, le référendum catalan d'hier était illégal et même si la police n'était pas intervenue, eh bien son résultat n'avait aucune chance d'être reconnu ni en Europe ni à Madrid. Donc la question se pose bien, pourquoi avoir ordonné à la police nationale et à la Guardia Civil de charger? Pourquoi avoir bousculé des manifestants, arracher des urnes, puisque comme l'a dit Mariano Rajoy lui-même, il n'y a pas eu de référendum hier. C'est d'autant plus incompréhensible que la date du 1er octobre était connue depuis des mois qui n'ont jamais été mis à profit par le gouvernement madrilène pour, vous savez, discuter avenir et autonomie entre compatriotes. C'est à croire que ces images, cette confrontation, Mariano Rajoy la voulait, les attendait. Autrement dit, voilà un Premier ministre qui a fait le calcul que cette attitude le servait plus qu'elle ne le desservait.
Mais alors, par quel calcul de billard à 3 bandes en est-on arrivé là?
D'abord, on va essayer d'entrer dans sa tête. Hein. L'international. Mariano Rajoy se fiche de l'image que peut envoyer son pays au sein de l'opinion publique européenne et mondiale. Ce qui lui importe, c'est la vie de ses pairs. Et ses pairs sont tous rangés derrière Madrid. D'Angela Merkel à Emmanuel Macron, de Theresa May à l'italien Paolo Gentiloni, tous Ceux qui comptent en Europe se sont rangés derrière la légalité constitutionnelle espagnole. D'ailleurs, que dire d'autre, d'ailleurs. L'affaire était réglée. Mariano Rajoy est donc passé à la politique intérieure. Son parti, le Parti Populaire, gouverne en coalition, mais surtout en minorité. Il ne survit que grâce à l'abstention des socialistes. Or, cette coalition de briques et de brocs ne tient que sur une seule et unique question, l'opposition à l'indépendance catalane. Autrement dit, plus Mariano Rajoy se montre ferme, plus il contraint ses partenaires à serrer les rangs derrière lui.
Donc on l'a bien compris déjà tout à l'heure, il n'y a pas d'alternative, personne pour tenter un dialogue.
Une fois que vous avez hystérisé le débat, il n'y a plus qu'une seule solution, pour ou contre l'unité du pays, pour ou contre le référendum catalan. Or, ces charges policières, cette répression, ces images ont achevé d'hystériser la question catalane. Voilà tous les partis piégés et Mariano Rajoy a sauvé son poste de Premier ministre. Or, pour son parti, c'est presque une question de vie ou de mort. Le Parti Populaire, le parti de Mariano Rajoy donc, est englué dans des affaires de corruption. S'il quitte le pouvoir, c'est pour des années de procès. Enfin, plus profondément encore, ouvrir des négociations avec les Catalans, mais aussi avec les Basques, d'ailleurs, pourquoi les oublier, c'est ouvrir la boîte de Pandore de la Constitution espagnole. Et ça, le Parti Populaire ne veut surtout pas en entendre parler. Un exemple. Vous savez que l'Espagne est la dernière monarchie européenne où prévaut la primogéniture masculine. C'est-à-dire que si un garçon devait naître demain du couple royal, eh bien il deviendrait automatiquement héritier du trône devant ses sœurs aînées, comme au Moyen-Âge. Toutes les monarchies constitutionnelles ont éliminé cette scorie médiévale, pas l'Espagne, parce qu'il faudrait toucher à la constitution de 78. Or, une fois qu'on commence à modifier ça, pourquoi pas le reste? Donc mieux vaut absolument ne rien faire.
Et une petite dernière question pour la route, Anthony. Les insoumis de Podemos, ils ne font rien ou pas?
Ils font de la polémique, de la politique, pardon, comme les autres. Ils voient les souhaits de la politique. Que joli lapsus, effectivement. Ils voient les socialistes, vous savez, leurs frères ennemis, s'empêtrer dans leurs contradictions, leur manque de courage politique, et ils calculent qu'à la fin, eh bien, ils tireront les marrons du feu. Bref, tout le monde en Espagne, et pour tout le monde, il est urgent d'attendre.
Anthony Bélanger et son édito dans Un jour dans le monde, le 18-20, continue avec le journal de Sébastien Pau, retour aussi évidemment à Las Vegas.